dans le même temps, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont en train, non pas d'apparaître, puisqu'elles existaient autrefois, mais de s'accentuer, de devenir beaucoup plus importantes, et qui sont liées à des facteurs nutritionnels. La première à laquelle on pense, c'est l'obésité. L'obésité, c'est une surcharge pondérale d'un organisme par rapport à une moyenne. C'est des individus qui sont temporairement ou pendant une période beaucoup plus longue de leur existence en surpoids par rapport à la moyenne et par rapport à ce qu'ils sont susceptibles de supporter du fait de leur constitution, de leur squelette, de leur circulation, etc. Et l'obésité est en train d'augmenter de façon très marquée à l'échelle planétaire, pratiquement, en dehors des pays qui sont mal nutris, malheureusement. Et c'est en tout cas le cas des pays occidentaux. La France, jusqu'à maintenant, a été un peu préservée de l'obésité, du fait de la qualité des régimes, j'y reviendrai tout à l'heure, du fait des traditions alimentaires françaises, mais c'est en passe de disparaître. Et la nourriture en France devenant la même que dans les autres pays occidentaux, on a exactement la même réaction, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gros. Ça, c'est d'autant plus préoccupant que ça s'observe surtout chez les jeunes. Chez les adultes, c'est surtout certaines classes socio-professionnelles, les classes souvent les plus défavorisées, comme les chômeurs ou les RMistes, qui sont davantage atteintes par l'obésité, tandis que chez les jeunes, c'est toutes les classes confondues. Il y a ce qu'on appelle chez... L'obésité est normale chez le tout-petit. Les bébés, c'est normal. Un bébé, on les voit toujours grassouillis, rebondis, c'est tout à fait normal. Et il est de même qu'il est normal qu'ensuite, en grandissant, à partir de 2 ans, la silhouette s'affine et que le bébé maigrisse et que le petit enfant soit relativement mince. Il y a ce qu'on appelle un rebond d'adiposité à l'heure actuelle, c'est-à-dire que au lieu de devenir plus maigre à partir de 2 ans, il le devient à partir de 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on voit des enfants de 5, 6, 7 ans qui ont des morphologies encore de bébé, c'est-à-dire qui sont gras, qui sont gros. Et le problème, c'est que à partir de l'âge de 6 ans, si une obésité est installée, elle est définitive. C'est-à-dire que, sauf à trouver des médicaments miracles, sauf à changer de comportement, sauf à avoir des contraintes énormes, l'individu qui, enfant, est obèse, adulte sera obèse. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des problèmes de santé publique et que ces problèmes risquent de s'accentuer au fur et à mesure que ces enfants qui sont trop gros grandiront. Ça fera des adultes obèses. Alors l'obésité, on dit que c'est un coût financier énorme pour la société, parce que c'est pas qu'une question de mode, pas qu'une question de mal vivre dans la tête des gens ou d'être accepté plus ou moins bien. C'est que l'obésité, c'est une étape préliminaire à l'installation d'un certain nombre de pathologies, comme par exemple l'hypertension, comme par exemple, beaucoup plus grave et beaucoup plus fréquent dans ce cas, le diabète. Il y a des formes de diabète qu'on appelle le diabète de type 2 qui sont consécutives d'une obésité. Donc, un coût pour la société. Deuxième exemple de pathologie qui est liée à la nutrition, les maladies cardiovasculaires. J'ai oublié de te préciser en préliminaire que la plupart des pathologies comme l'obésité ou les maladies cardiovasculaires sont des maladies qu'on appelle multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de l'installation de la maladie. Il y a l'hérédité, il y a le sexe, il y a l'âge, mais il y a la nutrition. Et il se trouve que la nutrition est, pour les maladies cardiovasculaires, un facteur très important et surtout un facteur qu'on peut corréler et qu'on peut rectifier. On peut corréler directement le taux de nutrition au poids, à l'évolution des pathologies cardiovasculaires, et puis c'est quelque chose inversement sur lequel on peut agir. Bon, quelqu'un qui a un risque cardiaque parce qu'il est un homme de 50 ans, il ne peut changer ni son sexe, ni son âge. Par contre, il peut changer d'habitude alimentaire. Donc c'est important de prendre cette notion, d'avoir cette notion présente à l'esprit, que la nutrition est un des facteurs de l'installation de ces pathologies, mais elle est un des facteurs surtout, elle n'est pas le seul, mais elle est le seul par la sédentarité et le tabagisme, dans ce cas, elle est un des facteurs sur lesquels on peut jouer, on peut influencer. Bon, les maladies cardiovasculaires, c'est à l'heure actuelle la première cause de mortalité en France, c'est de par les attaques cérébrales, de par les hémorragies cérébrales, de par les ruptures d'anévrisme, de par les infarctus. c'est la première cause de mortalité, et la nutrition a un impact énorme sur l'apparition de ces maladies cardiovasculaires. Grosso modo, très schématiquement, quand on mange une nourriture trop riche en cholestérol et en lipides saturés, ils vont avoir tendance à se déposer à l'intérieur de la paroi des artères, créer ce qu'on appelle des plaques d'athérome, et gêner la circulation au point de l'interrompre quand il se forme des caillots à ce niveau. Donc, une maladie extrêmement importante et qui peut être très invalidante pour les individus, qui est liée à la nutrition. Autre maladie qui, à l'heure actuelle, représente moins mais qui est en passe de s'accentuer, c'est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une dégradation du squelette qui se produit avec l'âge, qui fait que la réserve osseuse tend à diminuer, le calcium qui est fixé à l'intérieur des os tend à se dégrader, les os se fragilisent, et les gens font des chutes beaucoup plus fréquentes. C'est une maladie qui est en passe de s'accentuer, d'une part du fait d'erreurs alimentaires, et d'autre part du fait que la population est en train de vieillir. Toutes les statistiques disent que le nombre de personnes âgées, le nombre de personnes de plus de 65 ans est en train d'augmenter. Donc cette maladie qui est une maladie liée à l'âge augmente aussi. Autre pathologie qui dépend de la nutrition et qui augmente aussi, c'est certains cancers. Malgré les progrès réalisés réellement ou souvent annoncés dans la guérison des cancers, qui tiennent surtout au fait que les individus en prennent davantage conscience et que les cancers sont pris plus tôt qu'avant, et de nouvelles thérapeutiques, malgré ces progrès, le nombre de cancers est en augmentation constante dans les pays occidentaux, et en particulier en France. Alors, tous les cancers, bien sûr, ne sont pas liés à l'alimentation. Là encore, il y a tout un tas de facteurs héréditaires ou immunologiques ou des facteurs de mode de vie qui sont à l'origine de cancers. Mais la nutrition intervient fortement, d'abord dans les cancers du côlon, qui sont la première cause de cancer chez l'homme, et ensuite dans les cancers hormonodépendants, cancer de la prostate chez l'homme et cancer du sein chez la femme, les facteurs nutritionnels sont très, très prépondérants. Alors, j'ai essayé de te faire un parallèle entre deux aspects, d'une part des changements dans la nutrition, et d'autre part l'apparition de certains nombres de maladies. Alors, il reste un troisième volet, c'est comment arriver à corréler, à rectifier le tir, en quelque sorte, si je peux prendre l'expression, à rectifier ces erreurs alimentaires de façon à ce qu'elles n'aient plus une incidence négative sur la santé. Alors, pour ça, il y a deux façons de faire. La première consiste, c'est l'optique que sont tentés de prendre les industriels, à fabriquer des aliments qui soient enrichis en valeur santé, des aliments qui soient meilleurs pour la santé, c'est-à-dire des compositions d'huile qui soient meilleures, ou des gélules, ou des extraits, etc. Ça, c'est une façon de penser. C'est la démarche à peu près globale qu'ont les laboratoires de l'industrie pharmaceutique, et c'est la démarche que voudrait adapter un certain nombre d'industries agroalimentaires. C'est-à-dire faire des aliments qu'on va appeler des nutricaments ou des alicaments ou des nutraceutiques qui sont à la frontière entre l'aliment lui-même et le médicament et qu'on prescrirait aux gens et qu'on ferait manger. C'est des aliments à valeur ajoutée, une valeur santé ajoutée. On commence à voir des œufs, par exemple, ou des bonbons qui sont enrichis en oméga-3. C'est des lipides qui ont des propriétés intéressantes pour la santé, ou qui sont enrichis en DHA. C'est également des lipides qui ont des propriétés positives. Le problème dans ce cas, c'est que quand des substances, quand des molécules lipidiques ou autres ont un effet positif sur la santé quand elles sont prises dans l'aliment, quand elles sont sorties de leur contexte alimentaire, quand elles sont isolées, on ne trouve pas du tout les mêmes propriétés. Quelquefois même, on trouve l'effet inverse. Il y a des exemples célèbres d'études, notamment sur l'effet qu'on pensait positif et qui est positif de certaines vitamines, quand elles sont prises dans l'aliment support, elles ont un effet positif. Quand on les prend sous forme de gélules, l'effet n'est pas du tout le même. Il en va de même pour les médicaments. Alors ça, c'est une voie qui est intéressante pour les industriels, mais qui, pour ses retombées sur la santé, est un peu moins intéressante. On n'a pas l'évidence à l'heure actuelle que c'est une voie positive pour améliorer la santé et pour rectifier les erreurs qu'on fait dans l'alimentation. Il y a une autre voie qui consiste, qui est la deuxième, qui est l'alternative, qui consiste à restaurer des régimes alimentaires de qualité. Alors je m'explique un peu plus là-dessus. C'est une série de travaux qui ont commencé dans les années 50. À l'époque où on a commencé à s'intéresser aux différents pays européens et chercher à savoir quelles pouvaient être les différences régionales en termes de santé. Alors il y a une étude qui a fait date, qui s'appelle l'étude des 7 pays, parce qu'on a étudié dans 7 pays la mortalité des individus, c'est-à-dire le nombre de morts par rapport à la population et par année, et la morbidité, c'est-à-dire le nombre d'individus malades par tranche de population et par année, dans 7 pays différents. Et on s'est rendu compte dans cette étude que, selon l'endroit où on habitait, on n'avait pas du tout les mêmes chances face à la mort ou face à la maladie. Et en particulier, les pays du tour de la Méditerranée sont des pays privilégiés, non pas seulement par le climat, comme on pourrait le penser, mais pour ce qui est de la longévité et de la moins grande fréquence de certaines maladies. Alors on a, dans un premier temps, cherché à corréler ça à des facteurs héréditaires, à des déplacements de population, etc., et à des variations climatiques, à des modes de vie, à des traditions, et on s'est rendu compte qu'il y a un facteur auquel on pouvait très bien corréler ça, c'est le régime alimentaire. En d'autres termes, les gens qui vivent sur le pourtour de la Méditerranée ont un régime alimentaire qui les rend moins malades et qui les préserve plus longtemps en meilleure santé que les individus qui sont dans d'autres régions, qui mangent d'autres régimes. Alors on a cherché, et on est encore en train de chercher à affiner et à déterminer ce qui, dans le régime alimentaire de la région méditerranéenne, est bénéfique par rapport aux autres. Le premier élément qu'on a mis en exergue comme élément positif, c'est la qualité des lipides qui sont consommés. Il se trouve que dans le régime méditerranéen, l'essentiel des lipides est apporté par des huiles végétales, et notamment de l'huile d'olive, alors que dans d'autres régions, comme le nord de la France ou dans les pays scandinaves, les lipides sont des lipides qui sont dits saturés, c'est-à-dire des lipides des graisses d'origine animale, du beurre ou du sendou. Et ça, on sait que ça a une incidence très forte sur les maladies cardiovasculaires. Donc le premier point positif des régimes méditerranéens, c'est sa richesse en certains lipides, notamment l'huile d'olive. Le deuxième point positif de ce régime, c'est sa richesse extrêmement grande en légumes et en fruits par rapport à d'autres régimes. La troisième caractéristique de ce régime, c'est qu'il est constitué de plats qui sont goûteux, qui sont agréables au goût, parce que composés d'une grande variété d'aliments ou de constituants ou d'aromates. Et du fait de son onctuosité, du fait que c'est un régime qui a davantage de goût, on en mange des quantités moindres. Et par rapport aux autres régimes, le régime méditerranéen est un régime moins calorique. Sans être un régime complètement frugal, c'est un régime qui est moins riche que celui des autres régions. Il faut rajouter un autre élément qui est le vin, qui est présent dans le régime méditerranéen, à des concentrations faibles, mais qui est présent au cours de tous les repas. Donc les caractéristiques de ce régime méditerranéen, et on parle surtout de régime crétois, puisque la Crète, c'est la région où on a davantage examiné, et où le régime méditerranéen est le plus pur, le plus original par rapport aux autres. Donc les particularités de ce régime, c'est d'avoir une grande diversité dans les produits, une grande richesse en fruits et légumes, une relative pauvreté en viande par rapport aux autres, un peu de vin, et des lipides d'origine différente. Il faut rajouter une autre notion qui est proche de celle de ces régimes méditerranéens, c'est la notion qu'on a appelée le paradoxe français. Il y a une publication qui est sortie il y a quelques années, mettant en évidence ce qu'on a appelé un paradoxe, c'est-à-dire que les Français, en particulier dans le midi de la France, c'est une étude qui a été faite dans la région du Grand Sud, que les Français ont un régime riche en lipides, ont un régime qui n'est pas pauvre du tout en cholestérol par rapport à d'autres, ont une certaine adiposité, pour ne pas dire qu'ils sont obèses, je n'irai pas jusque-là, mais enfin, ils ne sont pas plus maigres que les autres. Mais paradoxalement, et c'est pour ça qu'on a parlé de paradoxe, ils ont un état cardiovasculaire qui est bien meilleur que dans d'autres régions du monde, où on mange la même quantité de lipides, où on mange la même quantité en particulier de cholestérol. Et ça, ça a été expliqué par le fait qu'on boit du vin en France. Alors, il faut être extrêmement prudent sur la consommation de vin, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une boisson alcoolique, qui a un effet délétère de l'alcool sur la santé, qui est prouvé depuis extrêmement longtemps. Mais à l'heure actuelle, on a tendance à considérer que le vin pris en petite quantité est un élément qui n'est pas complètement négatif sur la santé.